Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous célébrons aujourd'hui le mystère de la résurrection. Et ce mystère est comme le résumé de notre foi en Jésus-Christ. Parce que, en parlant de la résurrection de Jésus, nous affirmons plusieurs vérités. Nous affirmons d'abord que Jésus est vrai homme. Parce que pour ressusciter, il faut d'abord mourir, et pour mourir, il faut être homme. Mais nous affirmons aussi en même temps que Jésus est vrai Dieu, car il faut une puissance divine pour se ressusciter soi-même. Et puis, nous l'affirmons comme notre Rédempteur, notre Sauveur, car s'il s'est incarné, s'il est mort, s'il est ressuscité, ce n'est évidemment pas pour lui-même, mais pour nous libérer par sa mort et sa résurrection du péché et de la mort éternelle. Ce mystère est le fondement de notre foi, le modèle de notre vie chrétienne et le gage, c'est-à-dire la garantie de notre propre résurrection future. D'abord, il est le fondement de notre foi. La résurrection de notre Seigneur est le plus grand de tous ses miracles. Il n'y a qu'un Dieu qui puisse se ressusciter lui-même. Jésus dit aux Juifs, « J'ai le pouvoir de perdre la vie et de la reprendre quand il me plaît. » C'est une affirmation on ne peut plus claire de sa divinité face aux Juifs. Et ceux-ci l'ont bien compris. Et par sa résurrection, Jésus montre la vérité de cette affirmation. Il a montré qu'il a le pouvoir de perdre sa vie quand il le veut et de le reprendre quand il le veut. Ce miracle prouve que notre Seigneur est vraiment Dieu Tout-Puissant et que forcément, tout ce qu'il a dit est vrai. Et c'est pourquoi, le jour de la Pentecôte, Saint-Pierre et les apôtres chargés de prêcher Jésus-Christ et sa doctrine à tous et partout, insistent d'abord sur ce fait historique publiquement vérifié et constaté. Saint-Pierre dit, « Vous avez tous connu Jésus de Nazareth et vous l'avez mis à mort. Or, il est ressuscité comme il l'avait annoncé. Et nous en sommes témoins. » Et c'est lui que Dieu a établi Seigneur et Christ. Repentez-vous donc et faites-vous baptiser au nom de ce Jésus ressuscité et glorieux. Et quand Saint-Pierre va guérir le boiteux dans le temple, il déclare que c'est au nom de Jésus qui a été crucifié et qui est ressuscité. Et saint Paul, dans ses épîtres, dit que si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre prédication, vaine est notre foi. C'est-à-dire notre foi n'a plus raison d'être si Jésus n'est pas vraiment ressuscité. Il n'y a ni rédempteur, ni rédemption. Il n'y a ni justification, ni vie future. Les Écritures sont fausses et Dieu lui-même nous aurait donc trompés. Mais au contraire, si Jésus-Christ est vraiment ressuscité, il est Dieu Tout-Puissant. Et donc sa doctrine est vraie et céleste. Et nous devons la croire. Ses préceptes sont divins et nous sommes tenus de nous y soumettre. Donc la résurrection est le fondement de notre foi. Mais la résurrection est aussi le modèle ou la forme de notre vie chrétienne. C'est saint Paul encore qui nous le dit. Nous qui avons été baptisés dans le Christ, nous l'avons été dans sa mort. Car par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui dans la mort, de telle sorte que, comme Jésus-Christ est ressuscité par la gloire de son Père, de même nous marchions dans une vraie nouveauté de vie. Morts avec lui, nous devons vivre avec lui d'une vie nouvelle. car le Christ ressuscité ne meurt plus. Regardons-nous donc comme réellement morts au péché, mais aussi comme vivants à Dieu, vivant divinement avec Jésus-Christ. Donc cette nouvelle vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons nous dégager, nous débarrasser de nos mauvaises habitudes, de nos mauvaises tendances. Il dit, nous l'avons lu tout à l'heure, « Purifiez-vous du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle. Si donc vous êtes baptisés et ressuscités avec Jésus-Christ, cherchez les choses d'en haut, là où le Christ est assis à la droite de son Père. Ayez le goût des choses d'en haut, non de celles qui sont sur la terre. » Toutefois, les Juifs, ils étaient obligés, pour la fête de Pâques, de vider leur maison de tout le pain avec du levain dedans. Ils devaient manger que du pain sans levain, les azimes, qui étaient tout blancs, purs, du levain qui, en fait, c'est une espèce de champignon et qui représente un peu la pourriture, la décomposition. Et cette pureté symbolisée, la pureté de notre nouvelle vie dans le Christ. La vie de Jésus ressuscité est le type de notre vie spirituelle. Nous devons revêtir le Christ. Saint Chrysostome dit que ce que la croix et le sépulcre ont été pour le Sauveur, le baptême l'a été pour nous. C'est-à-dire, il y a eu d'un côté et de l'autre un affranchissement, une libération pour Jésus d'une mort subséquente. Donc Jésus ne mourra plus jamais. Resurgens iam non moritur. Et pour nous, une libération du péché, qui est la mort de l'âme. Mais évidemment, nous, tant qu'on est ici-bas, on ne peut pas dire que nous ne mourrons plus comme Jésus. C'est à condition que nous ne négligions pas la part qui dépend de nous pour éviter une rechute dans cet esclavage du péché et du démon. Car, donc Saint Jean Chrysostome ajoute, à moins que vous ne descendiez vers le démon ne saurait monter où vous êtes, puisque vous êtes dans le ciel par le baptême, et que le ciel est inaccessible au démon. Mais si la vie de Jésus ressuscité est le modèle pour notre vie, quels sont les caractères de cette vie glorieuse du Christ ressuscité, à laquelle notre vie doit être conforme? Elle est avant tout immortelle. Christus resurgens ex mortuis iam non moritur, mors illi ultra non dominabitur. Donc, Jésus ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alors notre mort à nous, comme on disait tout à l'heure, c'est le péché mortel. Dès lors que nous sommes baptisés, nés de Dieu, nous ne devrions plus jamais pécher, c'est-à-dire mourir à la grâce par le péché mortel. Le baptême nous en donne en soi le moyen, le pouvoir d'éviter tout péché mortel. Hélas, cependant, de fait, combien entre nous nous retournons à notre précédente décrépitude et soupirons après les oignons de la vieille Égypte, comme dit Saint Jean Chrysostome, comme les Hébreux qui étaient libérés de l'esclavage de l'Égypte et ingrats ont regretté la bonne chair qu'ils avaient en Égypte. Heureusement, notre Sauveur nous a donné dans sa miséricorde le sacrement de pénitence. C'est comme un second baptême qui ressuscite notre âme aussi souvent que nous y recourons avec les dispositions requises. Donc pour nous, en fait, la mort au péché et la résurrection, pour beaucoup d'entre nous, c'est cyclique. En fait, c'est quelque chose où on a des moments où on doit nous reprendre, soit retrouver la grâce par une bonne confession, soit refaire des bonnes résolutions pour toujours faire des progrès dans la vie spirituelle. toute notre vie est comme un cycle sans fin de mort et de résurrection. Alors ensuite, la vie de Jésus ressuscité, son corps avait les quatre qualités des corps glorieux. Son corps était impassible, c'est-à-dire plus du tout sujet aux douleurs et à la maladie. Et même si le baptême n'enlève pas, évidemment, nos douleurs et nos maladies ici-bas, nous participons tout de même à son impassibilité en nous confiant en son secours et en nous maintenant supérieurs aux misères de cette vie. Donc ces misères existent encore, mais forts dans la douleur, nous pouvons éviter de nous laisser abattre par ces misères. Ensuite, le corps de Jésus avait ce qu'on appelle la subtilité. La subtilité, c'est une qualité des corps glorieux qui soumet parfaitement les facultés inférieures aux facultés supérieures. C'est-à-dire nos passions et nos sens seront soumis à notre volonté, notre raison. Et nous participons aussi à cette subtilité du corps glorieux de Jésus en devenant tout spirituel, c'est-à-dire en nous soumettant à l'action, à la direction du Saint-Esprit. Qui spiritu Dei aguntur i sunt filii Dei. Ceux qui se laissent diriger par le Saint-Esprit sont des fils de Dieu. Et en fait, en soumettant notre raison et notre volonté à l'action du Saint-Esprit, nous avons plus de maîtrise sur nos facultés inférieures. Notre raison domine mieux nos passions et nos sens. Et par le baptême, ce divin esprit, le Saint-Esprit, habite en nous. Nous devenons comme des temples du Saint-Esprit. Et donc, loin de nous, donc, la vie de la chair avec ses convoitises par nos passions. Comme dit saint Paul, il faut chercher des choses d'en haut et non pas des choses qui sont d'en bas sur la terre et terrestre. Et puis troisièmement, Jésus avait la qualité d'agilité. Donc les corps glorieux dans le ciel vont vivre dans un nouveau univers. En fait, il va y avoir une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et nos corps glorieux, avec leurs trois dimensions, vont vivre tout en contemplant Dieu et en la vision béatifique, vont vivre dans un nouveau monde avec ces trois dimensions. Et nous allons pouvoir louer Dieu et le contempler non seulement en lui-même, mais aussi à travers sa création, en contemplant ce beau nouveau monde. Et nous allons pouvoir nous déplacer en un clin d'œil. C'est ça l'agilité. Nos corps vont obéir en un clin d'œil à notre raison dès qu'on a envie d'aller quelque part. Et nous participons déjà ici-bas à cette qualité en devenant libres de toutes les entraves du démon, du monde, de la chair, toutes ces choses qui nous tirent vers le bas, en sorte que rien ne nous puisse arrêter quand il s'agit du service de notre Dieu. C'est ce qu'on appelle la dévotion. En fait, la dévotion, c'est la promptitude dans le service de Dieu. De servir Dieu, et puis même transformer nos devoirs tout profanes, hein, notre devoir d'État, aller au travail, etc. En les faisant pour Dieu, on sert Dieu en tout, avec promptitude, et non pas en maugréant ou en traînant les pieds. C'est-à-dire ne rien négliger dans notre devoir, satisfaire tous les devoirs de notre État et accomplir toutes sortes de bonnes œuvres pour mériter le ciel. Et puis Jésus, dans son corps glorieux, jouissait de la qualité de clarté. Les corps glorieux sont lumineux, en fait, ils émettent de la lumière. Et pour les chrétiens dans ce monde, la clarté, C'est la pureté, la candeur, la simplicité, la vérité de notre vie, tout ce qui constitue la vraie beauté d'une âme. Nous devons éclairer, rayonner autour de nous comme un chandelier qui est posé en haut pour éclairer la pièce. Ou comme dit saint Paul, tout chrétien rempli de la vertu du Christ doit être comme la bonne odeur du Christ. Il doit faire connaître et aimer Jésus autour de lui par ses paroles et surtout par ses exemples. Et puis enfin, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est le gage, la garantie de notre résurrection future, notre résurrection à nous. Le mercredi des cendres, l'Église nous a dit à tous, « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. » Mais aujourd'hui, en nous faisant adorer Jésus-Christ ressuscité, l'Église nous promet que si nous voulons mourir avec lui, nous allons ressusciter aussi un jour pour la gloire avec lui. Et l'Église nous donne pour gage de cette résurrection la résurrection de Jésus. Car Jésus-Christ est notre chef, il est la tête de son corps mystique. Et lui étant ressuscité, les membres de son corps mystique doivent aussi ressusciter mystiquement avec lui. La tête est déjà là-haut dans le ciel. Et tant que nous restons unis à notre Seigneur dans ce corps mystique par la grâce, nous finirons par monter nous-mêmes aussi dans le ciel et être ressuscités avec lui. Le Christ ne saurait être divisé. Alors nous disons dans le credo, je crois en la rémission des péchés, c'est-à-dire la résurrection de nos âmes, et la résurrection de la chair, c'est-à-dire la résurrection de nos corps un jour à la vie éternelle. Donc c'est une vérité de foi, il faut y croire. Mais il y a quand même des raisons de convenance, des raisons pourquoi cela est logique. C'est d'abord pour la gloire de Dieu. Il a créé notre corps aussi bien que notre âme, et il est digne de lui que l'homme ne soit pas moins complet dans le ciel qu'au paradis terrestre, où Adam et Ève étaient corps et âme. Et de plus, Jésus-Christ, venu pour racheter et restaurer la nature humaine, a entendu la restaurer pleinement, complètement. Et lui, notre chef, étant âme et corps dans la gloire, il veut nous y voir avec lui de la même manière. Et puis, cette vérité de notre résurrection est fondée sur la justice. Si nous sommes corps et âme, il faut que l'un et l'autre adorent et honorent Dieu, travaillant et souffrant pour lui. L'âme utilise le corps pour faire le bien, et donc les deux doivent avoir la récompense au ciel pour le bien qu'ils ont accompli sur la terre. Et la résurrection de Jésus-Christ est aussi la cause, non seulement le gage, mais la cause de notre propre résurrection. Notre résurrection un jour sera grâce à la résurrection de notre Seigneur. Il est le principe de notre vie. Et ayant ressuscité sa propre chair, il a jeté dans toute chair un germe de résurrection. Comme une semence, comme un germe qui pousse, qui croît lentement, mais qui finit par s'épanouir. Il a mis par le baptême dans notre corps la vertu de ressusciter avec lui et par lui. Saint Paul nous dit, quand il apparaîtra à la fin du monde, nous lui serons semblables. Comme il a réformé son corps infirme et humilié, il réformera le nôtre et lui donnera la forme de son corps glorifié. Voilà, donc pour conclure, soyons surtout aujourd'hui dans la gratitude. Est-ce que nous remercions notre Seigneur de temps en temps d'être mort sur la croix et ressuscité pour nous? Pensons à tout ce que cela a impliqué pour nous. Cela nous a sauvés de la mort éternelle. Et il faut remercier Puis ensuite, il faut essayer de vivre en conséquence. On doit avoir un très grand respect pour notre corps. Dieu nous l'a donné comme un instrument au service de notre âme pour faire le bien. Nous utilisons notre corps pour accomplir le bien dans cette vie de ressuscité. Et puis demandons cette grâce aujourd'hui à la Très Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.